RFI.
Alors on dit quoi avec Diarra Ndiaye?
Alors on dit quoi est de retour et cette semaine nous vous avons concocté un beau programme. On commencera par aborder la problématique des enfants qui n'ont pas été déclarés à la naissance. Saviez-vous que des centaines de millions d'enfants dans le monde vivaient sans état civil? Eh bien 230 millions d'enfants de moins de 5 ans n'ont jamais été enregistrés à la naissance, soit environ un enfant de moins de 5 ans sur 3 dans le monde. Ce sont des enfants totalement inconnus des services administratifs de leur pays, d'où ce nom d'enfants fantômes. Des associations et des ONG tentent de sensibiliser au mieux les populations, mais la tâche, vous allez le découvrir, s'avère immense. Focus donc sur les enfants non déclarés tout de suite après le sommaire de l'émission. Alors on dit quoi ? Vous propose également de suivre la chronique de Joanne qui vous donnera des conseils pour mieux organiser votre quotidien et Anna qui nous parlera d'un humoriste béninois qui fait fureur, vous en avez peut-être déjà entendu parler, Kenneth Yannick Oussou. Et bien sûr, notre monsieur Intox Valdez nous dira si oui ou non, il y a environ 92 millions d'Africains qui boivent encore de l'eau provenant de sources insalubres. Et je n'oublie pas les pauses musicales, notamment avec un artiste nigérien que j'adore, Barakina. On écoute un extrait.
Et c'est le 227, tu connais le code.
Allez, j'ai hâte de commencer. À Kenudem, le programme est chargé, c'est parti.
Alors on dit quoi avec Diarra Ndiaye?
Selon l'UNICEF, il y a près de 45 millions d'enfants fantômes qui vivent en Afrique de l'Ouest. Entendez par là des enfants nés sans avoir été enregistrés à leur naissance. Du coup, leur identité n'est pas reconnue par les administrations. Ils se retrouvent donc privés de leurs droits. Apatrides, ces jeunes n'ont pas accès à la santé ou à l'éducation et se voient confrontés à de nombreux obstacles au cours de leur vie. Au Sénégal, Nafi Gueye a lancé l'initiative « J'existe » pour leur venir en aide. Notre correspondante Camille est allée à sa rencontre.
Charoy-sur-Mer, dans la banlieue de Dakar. Nafi Gueye a été alertée par sa cousine sur une situation compliquée.
On va aller voir une famille dont le père et la maman aussi n'ont pas de pièce d'identité, ni leurs deux enfants. L'un qui a, je pense, 6 ans et l'autre qui vient de naître. Donc là, on va aller leur rendre visite et essayer de voir pourquoi et éventuellement les aider à savoir quoi faire pour d'abord obtenir des pièces d'identité pour pouvoir déclarer leurs enfants au niveau des registres de naissance.
Elle a quel âge ?
3 mois. Déjà qui est déclaration ?
C'est déjà une déclaration tardive. Après 45 jours, c'est une déclaration tardive et c'est plus compliqué.
Face à des démarches qui leur paraissent obscures, les parents tardent à déclarer leur enfant. Ce père de famille reconnaît pourtant l'importance de l'état civil.
Aujourd'hui, je suis vraiment déterminé à obtenir un extrait de naissance pour mes enfants. J'avais un extrait de naissance, mais j'ai arrêté les études tôt et j'ai oublié de le prendre avec moi. Depuis, je ne le retrouve pas. Je suis menuisier. J'ai appris un métier pratique, mais j'aimerais que mes enfants puissent aller à l'école. La faute vient de moi, mais c'est aussi difficile d'avoir toutes les informations.
Cette explication, la jeune Sénégalaise l'a entendue des dizaines de fois. Le manque d'informations est souvent la raison invoquée.
C'est une ignorance d'abord, c'est l'ignorance et après c'est la négligence. L'ignorance parce qu'il n'y a pas assez d'informations qui est diffusée pour donner un peu la procédure juridique à suivre. Ça aboutit à la négligence parce que les gens au fur et à mesure tardent à déclarer leurs enfants.
Pourquoi c'est plus en zone rurale ou dans certaines zones ?
Parce que tout ce qui est communication est centré dans les zones les plus connues, c'est-à-dire en général dans la capitale ou dans les régions, les grandes régions. La population qui est au niveau des villages n'a pas toute l'information donnée parce que soit ils n'ont pas d'électricité pour regarder la télé, soit il n'y a pas assez d'infrastructures qu'on a mis en place pour leur permettre d'aller dans ces structures-là et poser des questions. Eux, ils n'ont pas la possibilité d'avoir les infos qu'il faut. Ils n'ont pas les moyens de se déplacer à chaque fois pour demander ou pour poser des questions relatives à la juridiction ou à leur statut juridique.
Souvent aussi, les parents ne comprennent pas l'intérêt de déclarer son enfant. Maître Camara est professeur de droit à l'université Cheikh Anta Diop. On lui demande régulièrement de l'aide pour obtenir un extrait de naissance.
Les gens, dès lors que leur enfant est bien portant, eh bien, ils croient que bon, tout est bien. Il faut par exemple vouloir escolariser l'enfant ou alors lorsque l'enfant devrait trouver un emploi et qu'on lui demande de consigner un dossier, c'est à ce moment-là qu'on sentira le besoin, la nécessité donc de produire donc les pièces d'identité. Mais pour dire simplement que c'est surtout en banlieue, mais également au fin fond donc du Sénégal que l'on constate une telle situation donc de non-inscription.
Alors pour sensibiliser dans les villages, Nafi s'appuie sur un réseau d'étudiants à Dakar. Elle les forme et les jeunes lui font remonter les problèmes.
Ça va ?
Une étudiante lui fait part du cas d'un enfant de son village.
Il est orienté en seconde S, mais on a dit que son numéro de registre appartient à une autre fille. Donc, de ce fait, il ne peut pas faire le BFM. Il est passé en moins de 13 et quelques. Il y a aussi d'autres cas. Son numéro de registre avec deux autres filles.
C'est des fraudes ?
Il y a énormément de numéros que les gens partagent entre eux et que ça cause énormément de soucis. L'idée, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser les gens et les inviter à en faire leur combat eux-mêmes. Et qu'aujourd'hui, lui, quand il est dans sa maison et qu'il voit qu'un de ses voisins ou une de ses voisines a donné naissance, que lui-même, en tant qu'intellectuel, qu'il dise « je ne vais pas attendre qu'il le fasse. Je vais aller voir le monsieur ou la dame pour lui dire « est-ce que tu as déclaré ?» Il dit « non, viens, je t'accompagne, on va aller déclarer. » Parce que maintenant, il sait quoi faire. Et quand il va au niveau de l'état civil, le monsieur ne peut pas lui dire des choses qu'il ne sait pas. Donc, il peut assister et ça lui prend juste une heure de temps. En tant que citoyen, on ne demande pas d'argent. Nous ne l'avons pas vécu. Nous n'avons pas le droit de faire vivre la même chose à nos petits frères ou à nos petites sœurs. D'accord ?
Les enfants fantômes du Sénégal peuvent compter sur les citoyens et citoyennes motivés de J'existe. Mais Nafi Gueye regrette que le problème, qui persiste depuis des années, ne soit pas pris à bras le corps par l'État.
Alors on a justement Camille qui est à mes côtés pour parler de ce reportage qu'elle a réalisé à Dakar au Sénégal. Bonjour Camille.
Bonjour.
Et Nafi, fondatrice de l'association J'existe, que vous avez entendu dans le reportage, elle est aussi en ligne avec nous. Bonjour Nafi.
Bonjour Yara.
Avec moi également en plateau, Samir qui est étudiant en droit africain ici à Paris. Bonjour,
bonjour
Samir. Alors Camille, pour parler un petit peu de ce phénomène en termes de chiffres, quelles sont les régions mondiales les plus concernées ?
Alors c'est un phénomène qui touche surtout l'Asie et l'Afrique. On est sur des estimations, mais d'après la Banque mondiale, il y aurait environ 1 milliard de personnes dans le monde incapables de justifier de leur identité. Et 500 millions vivent en Afrique, donc c'est quand même la moitié. En Afrique, les pays les plus touchés, c'est surtout l'Éthiopie, la Tanzanie ou encore la République démocratique du Congo. Au Congo, par exemple, la naissance d'un enfant de moins d'un an n'est déclarée que dans 1 cas sur 5, donc c'est très peu. Et en Afrique de l'Ouest, donc où se situe le Sénégal, où je suis partie faire ce reportage, il y aurait 45 millions de personnes non déclarées, d'après l'UNICEF cette fois.
Et ça, ce ne sont que des chiffres et des estimations, bien sûr. Mais Camille, est-ce qu'on connaît les causes qui expliquent que ce phénomène soit si important, et notamment en Afrique de l'Ouest ?
Alors, c'est ce qu'on a vu dans le reportage. Je pense qu'une des premières causes, c'est déjà que les parents ne comprennent pas que c'est important d'avoir un état civil. En fait, souvent, ils en ont pas eux-mêmes. Mais il faut dire aussi que la tâche est un peu compliquée. Dans les villages isolés, par exemple, pour se rendre dans une structure administrative, eh bien, c'est souvent très loin. Et en plus, on vient d'avoir un nouveau-né. Donc, clairement, il y a d'autres priorités. Dans la région Doula, au Burkina Faso, par exemple, on ne trouve qu'un centre administratif pour 62 villages. Donc, encore une fois, c'est très peu. Des fois, les pères sont loin du foyer parce qu'ils sont partis travailler. Et donc, les mères ont d'autres priorités. Une autre chose aussi, c'est que pour les gens qui n'ont pas reçu d'éducation, bah en fait, c'est compliqué, toutes ces démarches administratives. D'ailleurs, on a vu dans le reportage que des fois, c'était mal fait. Il y a plusieurs personnes qui sont inscrites avec un même numéro. Et en fait, les parents s'en sont pas rendus compte parce qu'en fait, ils ne comprennent pas toutes ces démarches.
Et Samir, finalement, on parle d'enfant fantôme depuis tout à l'heure. Comment on définit juridiquement ce terme ?
Juridiquement, le terme d'enfant fantôme n'existe pas. Mais il renvoie dans les faits à ces enfants-là qui, à la naissance, n'ont pas été déclarés, n'ont pas bénéficié de cette procédure d'enregistrement. Et il faut le dire, la déclaration en réalité n'est qu'un aspect d'une procédure d'ensemble qui comprend la déclaration de la naissance, la transcription par l'officier d'état civil et enfin la réception de l'extrait d'acte de naissance.
Et quelles sont justement les procédures à suivre prévues dans le code de la famille, en tout cas pour le cas du Sénégal, oui, par exemple, pour déclarer son enfant ?
La déclaration en réalité, elle est en principe très simple. Elle a un sens en réalité. Au-delà de l'aspect administratif et juridique, c'est le moyen utilisé par le droit pour signifier à l'ensemble de la communauté, pour porter à l'ensemble de la communauté l'avènement d'un nouveau membre, qu'elle s'est élargie. Et la procédure utilisée fait appel à des personnes bien habilitées, c'est les parents généralement, mais ça peut être aussi la matrone, ça peut être aussi des proches de la famille, un officier d'état civil qui est chargé de retranscrire les informations qui lui sont fournies. Et enfin, la procédure, elle s'achève par la délivrance d'un extrait d'acte de naissance. Ça, c'est la procédure normale, c'est la déclaration d'acte de naissance, enfin... C'est la plus simple au demeurant et la moins coûteuse aussi, il faut le dire. Mais dès qu'on attend davantage, dès qu'on perd du temps, la procédure commence à se compliquer, ça devient plus cher et là on risque de tomber dans un cercle vicieux.
Exactement, et ces conséquences sont graves. Camille, parlons justement des conséquences. On a entendu parler dans le reportage notamment des études qu'on est forcément obligé d'arrêter puisqu'il n'y a pas de documents civils qui prouvent l'identité de l'enfant, mais ce n'est pas tout, il y a pas mal d'autres conséquences.
Oui, donc les études c'est vraiment le plus gros frein pour les jeunes et d'ailleurs c'est souvent à ce moment-là que les parents essayent de faire déclarer leurs enfants puisque c'est un gros frein. Mais en fait, il n'y a pas que ça, il faut bien comprendre que c'est des gens, comme Samir le disait, qui n'existent pas, ils n'ont aucune existence légale, c'est-à-dire que leur nationalité n'est pas reconnue, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas voter, qu'ils ne peuvent pas aller à l'école, comme je disais, mais même pour trouver un emploi, ça peut être compliqué si on nous demande une pièce d'identité, pour aller à l'hôpital, se faire soigner, ça peut encore être des difficultés, donc en fait, c'est toute la vie de l'individu qui n'est pas déclaré, qui devient difficile.
Nafi, qu'on a en ligne justement, qui a mis en place l'association J'existe au Sénégal pour venir en aide à ses enfants. J'aimerais vous demander tout simplement pourquoi vous avez fait de cette cause votre cheval de bataille.
Alors, moi, j'en ai fait un combat parce que pour moi, c'est une question qui me touche directement parce que je suis ici dans le village et je sais ce que ça fait d'être née dans un village et de ne pouvoir pas avoir les informations qu'il faut pour pouvoir savoir quoi faire pour la déclaration, pour d'autres questions. Et aujourd'hui, au niveau de la situation donnée, où le Sénégal, on parle de plus de 40% de la population qui n'ont pas d'extrait, pour moi, c'est quand même un combat de citoyenneté qui doit pousser l'État à réagir et à se rendre compte de l'urgence de faire de cette question une priorité. Donc c'est pour ça que j'ai créé J'existe, dont le slogan est ton acte, mon identité, et dont l'objectif est de mobiliser le maximum de personnes autour de la question et de faire de la sensibilisation et aussi d'engager le maximum de bénévoles en ce sens.
Nafi, vous parliez justement d'actions sur le terrain. L'État met en place des actions soutenues comme les audiences foraines. Alors, c'est quoi ces audiences? Est-ce qu'on peut expliquer à nos auditeurs?
Oui, alors une audience foraine est une occasion pour permettre à une masse d'avoir un extrait de naissance. Malheureusement, aujourd'hui, au Sénégal, pour le cas du Sénégal, ça cause plus de problèmes qu'il n'en règle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les audiences foraines sont faites dans les villages avec une masse. C'est-à-dire, on peut avoir 1000 personnes dans une journée qui viennent pour demander un extrait de naissance. Sauf que les juges ne sont pas, on n'a pas assez de juges pour vérifier si les personnes qui demandent ces audiences foraines ont été déjà déclarées ou pas, parce qu'il n'y a aucun système informatique qui puisse les renseigner. La deuxième des choses, c'est qu'avant, c'était un moyen pour permettre aux juges d'en donner à la masse. Mais aujourd'hui, les juges ne veulent plus aller ou bien n'y vont plus de manière fréquente parce que le budget qui était alloué à l'audience foraine a été supprimé au Sénégal et on ne sait pas pourquoi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les juges font appel à la mairie ou bien à la mairie, au maire, pour leur demander de leur donner du carburant ou bien de leur permettre d'avoir une journée d'action. Et ça ne permet pas de régler le problème parce que le nombre de personnes qui se déplacent de village en village, qui font des kilomètres pour venir chercher un extrait, au final, repartent bredouilles parce que les juges n'ont pas pu leur donner à temps parce qu'il y a toutes ces questions logistiques qui font que les gens n'arrivent pas à en avoir.
Et Nafi, vous, justement, au niveau de l'association J'existe, vous mettez en place des sensibilisations comme les clubs des jeunes filles que vous avez créés?
Exactement. Alors, nous avons créé des clubs. Au niveau, déjà, on a commencé ça à Dakar. D'ailleurs, Camille m'a accompagné pour voir les étudiants. Ça, c'est une première étape. Mais la deuxième étape, ce serait de créer des clubs de jeunes filles dans les villages qui seront formés, mais aussi la formation des agents d'état civil, également les infirmières, ou comme par exemple ma tante qui est infirmière aujourd'hui, d'arriver à trouver un système où on va créer une chaîne sur laquelle va reposer la sensibilisation en tant que telle. Et nous l'avons commencé déjà sur les réseaux sociaux, où nous avons créé une page qui s'appelle J'existe, ton acte, mon identité, où on fait souvent des contenus vidéo où on explique clairement à la population comment on fait pour déclarer son enfant. Et bientôt, d'ici quelques jours, on ira sur le terrain à Tambacounda, où j'ai formé des étudiants à m'accompagner dans la sensibilisation. Et on espère qu'avec avec ça, on pourra quand même faire déjà le bayaba, c'est-à-dire informer les gens de la procédure et leur permettre de savoir quoi faire quand ils ont un enfant qui vient de naître.
Justement, en parlant de sensibilisation, les acteurs sur le terrain, les premiers acteurs comme les médecins ou alors les sages-femmes sont là pour témoigner. On a Astou qui est en ligne avec nous. Bonjour Astou.
Oui, bonjour Diara.
Astou, vous êtes sage-femme à Dakar. Est-ce que vous avez le sentiment que les parents sont sensibilisés à cette question de déclaration?
Oui Diara, je pense que les parents sont sensibilisés à cet acte de déclaration de naissance. Mais en fait, le problème réside au fait que culturellement, au Sénégal, la déclaration est laissée au papa. Donc, des fois, il y a l'absence de papa qui justifie maintenant la déclaration tardive ou la non-déclaration. Parce que la maman, quand elle accouche, elle est occupée, elle a d'autres priorités, sa santé, à s'occuper au bébé, et même les formalités sont ignorées. Comment faire pour déclarer, la maman, en général, l'ignore. Donc, c'est le papa qui vient en général chercher le certificat d'accouchement, ou même si c'est la maman qui amène le certificat d'accouchement, ensuite on donne au papa pour qu'il aille faire le nécessaire à l'état civil. Maintenant, il arrive trop souvent, les cas que nous rencontrons, c'est que le papa, pour une raison ou une autre, est absent du territoire pendant longtemps. Et à son retour, il y a peut-être une négligence, la maman a perdu le certificat d'accouchement, et on s'en rend compte plus tard, quand l'enfant doit aller à l'école, que l'enfant n'a pas été déclaré, malheureusement.
Vous parliez justement d'un document, le certificat d'accouchement, qui est souvent confondu avec l'extrait de naissance, notamment dans les villages et dans les cases de santé. Ce sont les infirmières et les sages-femmes qui font souvent les accouchements. Et vous qui êtes proche de ces femmes, est-ce que vos collègues font un peu de pédagogie pour expliquer l'utilité de ces documents et bien les distinguer, le certificat d'accouchement qui est normalement donné pour avoir cette déclaration de naissance?
Vous n'avez pas tellement raison, parce que quand les femmes accouchent, après, quand elles viennent, elles nous disent « je viens chercher l'extrait de naissance ». Et nous, on leur dit que ça, c'est pas un extrait de naissance, c'est un certificat d'accouchement qu'il va falloir amener à la mairie pour avoir effectivement l'extrait de naissance. Maintenant, en 2017, lors de la journée internationale des sages-femmes, ça faisait partie de nos thématiques parce que le problème est réel. Donc, nous avons partagé et nous avons fait des recommandations pour que le phénomène puisse diminuer. Donc, nous avons sensibilisé les sages-femmes, les collègues. Et nous, ce qu'on est en train de faire, c'est que quand la patiente nous revient en suite de couche pour les consultations postnatales, on vérifie si effectivement l'enfant a été déclaré. Donc on remet le certificat d'accouchement au premier contact postnat 1. Et quand elle nous revient en postnat 2, 15 jours après, on demande si l'enfant a été déclaré. Et si c'est pas le cas, on sensibilise encore de la nécessité d'aller déclarer très tôt. Et on leur sensibilise aussi par rapport aux conséquences de la déclaration tardive ou de la non-déclaration. Mais bon, et on avait même suggéré, il y avait un projet qui était en cours pour dire que les sages-femmes pouvaient directement déclarer la naissance à la maternité. Il fallait juste mettre l'état civil dans chaque maternité et la sage-femme pouvait déclarer et les parents pourront suivre ensuite pour avoir l'extrait de naissance.
Donc, quelques pistes de solutions. La sensibilisation, on le voit, c'est important. Merci pour votre appel. Astou, on a également en ligne Ousmane, qui est le coordinateur du programme de protection de l'enfance chez TDH, qui est l'organisation Terre des Hommes. Bonjour Ousmane.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
Ousmane, nous avons évoqué dans l'émission des nombreuses répercussions néfastes de l'absence de documents d'état civil au niveau scolaire, sanitaire et même juridique. Comment TDH accompagne ces enfants concrètement?
Alors là, c'est un problème récurrent. Et d'autant plus que nous, au niveau des Terres des Hommes, qui est, d'ailleurs, je précise que Terres des Hommes est la plus grande organisation suisse d'aide à l'enfance. Vraiment, vous voyez comment nous, on est sérieusement intéressés par cette thématique qui rend déjà l'enfant vulnérable. Je ne vais pas répéter tout ce que mes prédécesseurs ont dit, mais je suis totalement d'accord avec cela. Mais comment nous faisons en fait? Nous, au niveau des Terres des Hommes, nous agissons vraiment en conformité avec la Convention relative aux droits des enfants qui retient à son article 7 que l'enfant doit avoir un nom et une nationalité. Vous voyez que c'est très important déjà. Donc, nous sommes dans cette logique et que toute activité qui est de nature vraiment à faire en sorte que l'enfant puisse avoir ses droits, nous nous prenons vraiment en compte cela. Donc, comment nous nous faisons sur le terrain? Effectivement, nous faisons des activités de sensibilisation, comme l'a dit Nafi, et puis de faire en sorte que tout le monde soit au courant que l'investissement des enfants à la naissance, c'est vraiment le point de départ de la citoyenneté de l'enfant. Si cela n'est pas fait, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de droits de l'enfant qui sont vraiment pas respectés. Donc, par rapport, vous avez, par exemple, l'éducation, même la santé, donc, nous mettons vraiment en exergue tout cela. Maintenant, tout ce que nous faisons, les enfants qui ne sont pas encore enregistrés, nous faisons en sorte que nous puissions vraiment enregistrer ces enfants-là en leur procurant des jugements de justice. Au Mali, vraiment, ce dispositif-là est vraiment bien connu. Et il y a une demande vraiment très connue pour cela.
Merci beaucoup Ousmane pour ces précisions. Samir, une question avant de clore cette thématique autour de la volonté de l'État peut-être d'endiguer ce phénomène. Que nous dit la loi à ce sujet, notamment pour le cas du Sénégal?
Et d'abord, j'aimerais rebondir sur les interventions des uns et des autres.
Très rapidement, parce que
cela
a
précipité
en
moi un certain nombre d'observations. Ça rejoint ce que vous me demandiez à l'instant. C'est une véritable démission des États africains sur la question de l'enregistrement des enfants. Et pour ce qui est du Sénégal, par exemple, et des autres États africains d'ailleurs, les États sont liés par des conventions au niveau international. Et le monsieur à l'instant vient de parler de la convention relative aux droits de l'enfant. Mm-hmm. Il y a aussi le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui font obligation aux États de prendre en charge ces questions d'enregistrement des enfants. Et donc, en manquant à ces obligations-là, l'État sénégalais se met, enfin, enfreint ses engagements internationaux. Et il y a en cela bien de matière à engager sa responsabilité sur le plan du droit international.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous, Samir. Je rappelle que vous êtes étudiant en droit africain ici à Paris. Merci également à vous, Camille. Vous travaillez avec nous à RFI, bien sûr. Merci également à Nafi et son association J'existe. On postera notamment des messages et des vidéos pour sensibiliser nos auditeurs autour de cette question et de cette problématique finalement mondiale autour de des enfants fantômes.
Alors, on dit quoi sur RFI?
Et la semaine prochaine dans Alors on dit quoi sur RFI, nous parlerons du 7e art et des jeunes. La production africaine apparaît toujours comme le parent pauvre de l'industrie cinématographique mondiale. Mais la jeunesse africaine veut changer la donne. En Afrique, les étudiants dans les écoles de cinéma font notamment preuve d'une inventivité remarquable. Nous verrons comment les jeunes cinéastes tentent de s'imposer dans le monde cinématographique mondial.
Appelle-nous sur WhatsApp au 33 647 740 742.
Go now, tell them watch it in a traffic off in a slowdown. In a me zone, alto to baritone. Soon them a gussy say he's a queen up on the throne. You know, waste time with the music in your ears like any Q-tip. You should face time with the blues in the reggae bass line. Mama lose it and I'm on a poly. Watch it be the rhythm, put a song up on it. Now them all up on me, say them badder than me. So me kill them and study them and tell me them not understand me. But them say them loving the flow now. When them see me all over the media, and them hear me dey on Wikipedia. You so fast, know me all I get speedier. I a bomb, stamp, fire can't come. Shatter than a cup of water, bomb, bomb. Tell Janella, Cinderella, John Tom. Say a prayer, get a choir, handsome. Whoa now, me dey on the go now. Tell them watch it in a traffic, off in a slowdown. In a me zone, alto to baritone. Soon them a gussie say he's a queen dey on the throne. Wowning them, 5 stars say we wowning them. In a night, in a morning, black over we like a owning them. March out and we storming, and when people we foaming. God it is party alarming, regarding the place so we boning, boy. Folks now have to hear a next shot, red a coffee tear a next shot. Give it to them like a crusade, tell them we're up on a new wave. Uno nothing, nothing get up, me come with the fire get low. Lyrics put your very wet fear, funny death row, funny wet flow. Whoa now, me step on the go now. Tell them what, in a traffic off in a slowdown. In a me zone, alto to baritone. Soon them a gussie say he's a queen up on the throne. Check, 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 new day. Better put the coffee on your checklist. Nobody never did expect this, no.
know them watching me like Netflix. Now leave them in the silence. Them wait for me for bring the vibes. Jamaican people leave the violence. Can't read well, read between the lines. Tell me, yes, so they gun them pile a bay. And them of them in a wide array. Oh, them reach Spanish down and all my bay. Of them all a spray while a child a play. There's some police that if right, they not go work. Protect the peace and load the daughter's skirt. Needless to display the mama, then I drip my brother boy. Drip before the shirt.
C'était Throne de l'artiste jamaïcain Kofi. Et si vous aussi, vous avez adoré le son, vous pouvez le réécouter sur le site panafricanmusic.com, un site que je vous recommande vivement et qui est consacré aux musiques africaines. On peut notamment y découvrir des trésors musicaux de notre continent.
Alors on dit quoi ?
Nous parlons des enfants fantômes depuis le début de l'émission. Avec cette thématique, on prend conscience que derrière ces visages anonymes d'enfants, il y a des vies empêchées, des avenirs entravés par l'absence d'un simple papier officiel. Heureusement, il existe des gens qui mettent tout en œuvre pour les aider. C'est le cas d'Adama, qui est le cofondateur burkinabé de l'application eCivil. Bonjour Adama.
Bonjour.
Alors Adama, comment avez-vous été confronté à ce problème d'enfants fantômes ?
Déjà, je suis spécialiste de la sécurité documentaire. Bon, je savais a priori que les pays en Afrique est défaillant, mais je me suis aperçu de l'ampleur de ceci à l'ouverture d'une école que j'ai fait construire au village de ma mère au nord de Burkina Faso, où j'ai constaté que moins de 5% des enfants qui étaient là pour le recrutement n'avaient pas date de naissance. Donc c'est à partir de ceci que l'idée m'est venue de voir comment, avec les nouvelles technologies, on pouvait aider à résoudre cette question.
Alors, juste avant de détailler justement cette application, Adama, vous connaissez cette problématique, le Burkina n'est pas épargné. Est-ce qu'il existe des chiffres officiels sur l'ampleur du phénomène au Burkina Faso ?
L'ampleur du phénomène reste quand même une préoccupation, parce que encore en 2017, il y avait seulement 49,4% des enfants qui ont été enregistrés à l'état civil. Il reste quand même un enfant sur deux qui n'est pas enregistré. C'est quand même une très grosse préoccupation compte tenu des différents enjeux.
Et donc, pour endiguer ce problème et simplifier la déclaration de naissance, vous avez mis en place cette application eCivil. Comment fonctionne cet outil ?
L'outil, de façon mécanique, il est fait pour fonctionner, faire la transmission des déclarations de naissance depuis les points de santé jusqu'à un serveur national de la CIVIL. Et de façon simple, il y a un bracelet sur lequel on va mettre un identifiant unique qu'on appelle finalement bracelet à bulles, qui va interagir avec un smartphone qui lui est doté de l'application mobile, et la sage-femme ou une autre personne dûment habilitée va flasher le code unique sur le bracelet. Ceci va générer un formulaire de déclaration de naissance qui va être complété, nom, prénom, sexe de l'enfant et la biographie des parents. Et l'ensemble des données vont être envoyées directement sur un serveur national qui va remplir automatiquement une fiche d'extrait de naissance qui sera prête à être imprimée.
Mais en plus de cela, l'objectif aussi de ce bracelet, c'est de lutter contre cette régionalisation des actes d'état civil, puisqu'il faut, il me semble, 60 jours pour déclarer un enfant, en tout cas pour le cas du Burkina Faso.
Oui, c'est ce qui vient résoudre la question de la transmission de l'information, parce qu'à l'instant T0, l'ensemble des données liées au nouveau-né sont transmises directement à l'état civil et est en connaissance de l'administration publique qui a la charge de cette gestion-là. Donc nous avons de façon instantanée, chaque jour, seconde par seconde, le nombre d'enfants déclarés à la naissance, le nombre de personnes décédées, et nous avons ainsi un registre national qui fonctionne de façon dynamique.
Mais est-ce que c'est payant pour les familles ?
Absolument pas. L'état civil est un régalien. Ce sont les États qui financent aujourd'hui le fait d'identifier leur population, et la mécanique n'a pas changé. Et de toute façon, il n'y a pas de surcoût par rapport à ce qui est fait aujourd'hui sur les aspects classiques
de l'état civil. Et où est installé le dispositif actuellement, Adama ?
Au Burkina Faso, il y a trois villes qui sont déjà concernées par le lancement. La ville de Ouagadougou et les deux autres villes sont à l'est, qui sont les villes de Fada et de Tinkodogo.
Et l'initiative, elle est soutenue par des institutions comme l'ONU, qui veut garantir d'ici à 2030 l'identité numérique pour tous, parce que c'est un phénomène finalement mondial. Où en est le projet à ce niveau-là ? Vous avez donc trois villes installées, où eCivil est installé. Quelle sera la suite du projet ?
Les perspectives pour cette innovation sont très heureuses, parce que déjà, au niveau du Burkina, il y a les trois villes qui en bénéficient. On espère que assez rapidement, les autres villes pourront en bénéficier. Nous avons à ce titre également reçu d'autres pays qui s'intéressent à ce qu'on vient d'implémenter la même chose chez eux, notamment la République démocratique du Congo que nous avons reçue à Ouagadougou il y a un mois.
Une dernière question, Adama. Selon l'UNICEF, et on l'a dit en début d'émission, il y a plus de 230 millions d'enfants dans le monde qui sont sans état civil et donc sans existence légale. Et parmi eux, la majorité est en Afrique subsaharienne. Comment vous l'expliquez ?
L'explication, c'est juste une question d'organisation de l'état civil qui n'a pas beaucoup évolué avec le temps, alors que la population a beaucoup cru entre-temps. Donc nous avons une population qui est devenue nombreuse. Et également, les contraintes liées aux facteurs sociologiques dont je disais tout à l'heure, qui sont aussi la pauvreté, parce qu'il faut se déplacer de là où on a pour aller au centre d'état civil, où ces facteurs sont des facteurs bloquants. Donc aujourd'hui, avec la numérisation très grandissante au niveau du continent africain, cette question est déjà réglée et nous sommes en capacité de nous déployer assez rapidement pour que cette question des enfants fantômes soit dans le passé assez rapidement.
Merci pour toutes ces explications et précisions, Adama, et puis bonne chance pour la suite de votre projet e-civil.
Merci, bonne journée à vous.
Merci beaucoup, au revoir.
Alors on dit quoi ?
Bonjour à tous, c'est Stéphie de Franconville. Alors moi je voudrais parler de l'Afrique qui gagne. Ma vision des choses en fait, c'est que pour moi une Afrique qui gagne, c'est une Afrique qui est unie avec les différents pays dont elle est constituée, une Afrique qui avance main dans la main et sans distinction pour sortir la tête de l'eau en fait, parce qu'on est rempli de richesses et pour ça en fait il faudrait qu'on arrête les différents conflits qu'il peut y avoir sur ce continent et avancer tous ensemble main dans la main et unis en fait. Il n'y a que comme ça que selon moi on peut réussir. Et en deuxième point, je voulais sensibiliser les jeunes à vraiment connaître ses origines, ses racines, d'où l'on vient. Étant moi-même dans un mariage mixte avec un Français, je suis moi-même d'origine congolaise et je pense que c'est important à l'heure actuelle de savoir quand même un peu nos us et coutumes, de connaître ses origines, notamment pour l'expliquer nous aussi plus tard à nos enfants. Par exemple, comment je pourrais expliquer à ma fille qui s'appelle Elika, ce qui veut dire espérance, d'où vient son prénom, pas juste la signification en fait, pourquoi on l'a appelée comme ça. Et je pense que à l'heure actuelle, c'est important en fait d'avoir quand même des bases, savoir d'où l'on vient, quelle langue on parle, qu'est-ce qu'on mange chez nous, même si on n'est jamais allé en Afrique, c'est important quand même de savoir comment ça se passe. Et notamment un message aussi aux aînés pour les sensibiliser à nous transmettre toutes leurs valeurs, leurs coutumes en fait. Tout ça pour que même en étant français, on puisse avoir notre petite note africaine et notamment vraiment connaître nos origines. Et même si on n'y est pas allé, savoir comment notre Afrique fonctionne. Donc voilà, au revoir.
Avancer tous ensemble, pour moi, ce n'est pas utopique et Stéphie a raison de nous le rappeler. Merci beaucoup Stéphie pour ce message de tolérance et de communion. Et n'hésitez pas, vous aussi, vous pouvez partager votre vision dans Alors on dit quoi sur RFI. Chaque samedi, envoyez-nous vos messages sur le compte WhatsApp de notre émission au 33 647 740 742. Présentez-vous avec votre nom et prénom, définissez-vous en trois mots-clés. Adressez ensuite votre message à la jeunesse africaine, puis aux aînés, et expliquez-nous votre vision de l'Afrique qui gagne.
Alors on dit quoi avec Diarra Ndiaye?
Alors on dit quoi? Met fin aux infox qui circulent partout sur le continent. Ces dernières années, le phénomène des fausses informations s'étend sur le web aux dépens des internautes. Ces fausses informations peuvent être propagées dans des buts différents. Certains ont pour objectif de tromper le lecteur ou d'influencer son opinion sur un sujet particulier. D'autres sont fabriquées de toutes pièces avec un titre accrocheur pour densifier le trafic et augmenter le nombre de visiteurs sur un site. On vous propose donc de vérifier des faits consacrés à l'Afrique qui ont circulé sur Internet en collaboration avec l'école de journalisme EJICOM à Dakar et le site de vérification des fausses nouvelles Africa Check. Alors Valdez, aujourd'hui dans votre chronique, vous répondez à la question de savoir sont-ils 92 millions d'Africains à consommer de l'eau insalubre ? Alors avant de vous donner la parole, je précise que c'est une information faite dans un article de l'agence Ecofine.
En effet, l'agence a publié un article portant sur l'engagement pris par les pays africains relatif à l'éradication du choléra lors de la 68e session du Comité régional pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, session qui s'est tenue à Dakar du 27 au 31 août 2018. Et dans cet article, Diarra, Ecofin affirme donc que d'après les statistiques de l'OMS, environ 92 millions d'Africains boivent encore de l'eau provenant de sources insalubres.
Alors Valdez, qu'en est-il réellement ?
Diarra, pour comprendre de quoi il s'agit précisément, nous allons d'abord mettre en exergue les différentes classifications de sources d'eau faites par l'OMS. Premièrement, il y a les sources d'eau non améliorées, identifiées par l'OMS, qui sont donc les puits creusés non protégés, les sources non protégées, la charrette surmontée d'un petit réservoir ou d'un fût, ainsi que le camion citerne. Donc voilà ce que l'OMS considère comme sources d'eau non améliorées. On peut encore citer comme sources d'eau non améliorées les eaux de surface, c'est-à-dire les rivières, les retenues d'eau, les lacs, les mares, les ruisseaux ou encore les canaux d'irrigation. Nous avons donc consulté le dernier rapport conjoint produit par l'OMS et l'UNICEF intitulé « Progrès en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène », un document qui a été publié en 2017. Ce document renseigne donc qu'en 2015, 159 millions de personnes dans le monde, dont 58 vivaient en Afrique subsaharienne, puisaient toujours de l'eau de boisson directement dans des eaux de surface. C'est donc ce pourcentage, Diarra, qui représente un peu plus de 92 millions de personnes en valeur absolue.
Valdez, merci pour ces précisions et on a donc compris, ce sont précisément 92 millions d'Africains subsahariens qui consommaient encore de l'eau insalubre en 2015. Les populations d'Afrique du Nord ne sont pas comprises dans ce calcul.
Tout à fait.
Bien. Mais avant de terminer, ils sont donc combien d'Africains à consommer de l'eau potable ?
Je précise d'abord que l'OMS parle précisément de sources d'eau améliorées et l'accès à une source d'eau améliorée est défini par l'organisation onusienne comme le fait d'avoir un robinet domestique ou une borne fontaine aménagée ou encore un robinet rattaché à un forage fermé. Ainsi, selon ce même rapport que nous avons consulté, 61% de la population en Afrique subsaharienne avait accès en 2015 à une source d'eau améliorée contre 90% en Afrique du Nord.
Merci Valdez.
Merci Diarra et à la semaine prochaine.
Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Barakina qui nous vient tout droit du Niger, un style hip-hop qu'il adore faire dans des langues locales et étrangères. Son titre « Combien de fois fait un tabac ?» On l'écoute.
Salut, ici c'est Barakina depuis le Niger, artiste rappeur nigérien, nouvelle révélation musique urbaine au Niger. Finaliste prix découverte RFI. Alors je vous envoie ma dernière sortie qui traite de tous ces frères et sœurs qui jouent sain dans les couples et après on sent que c'est pas ça. J'espère que vous allez aimer et vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Vous écrivez tout simplement Barakina. Big up, je vous aime.
Mature on the beat.
Yeah. Stop. Et c'est le 227 et tu connais le code. Musikina. Yatata lei chukume itache na bagi. Amanata lei chukume itache na bagi. Kariata kare na gane banzaje. Sahiata waye, yo zame keta waye. Mais c'est quoi ce comportement? Tu mens comme le gouvernement. Tu m'as dit ouvertement qu'on ne voit pas tes sous-vêtements. Je t'ai cru tout bêtement, là je suis dessus honnêtement. Donc tous ces médicaments c'était pour faire un avortement. Mais t'as un problème d'éducation. Pour toi mentir est une passion. Bébé j'ai dit j'ai une question. Peux-tu me donner ton attention? Combien de fois t'as baissé ta jupe? Dis-moi combien de fois. Tu m'as dit que t'es vierge alors que connais il t'a collé. J'ai vu tes photos chez lui, tu gâtes le coin. Ne me parle plus de sentiments, je sais que t'es chouin. Intagani seta darmazanang, inna juya seta banyazanang, inna chi e seta chi a ane koko na chi a seta chi e ni.
Shi abin fatan sama har kasa ashe mugun abin na can kasa sai da na sai mata a cheke baba yace a bar bincike on fait du sale mais le maire est fâché tu veux nous voir il faut payer le cachet on est abonné au resto du quartier nous on connaît pas les supermarchés pas de cadeau à la resta bébé on ken pas on chill pas c'est pas sympa de bouffer la thune de quelqu'un que t'aimes pas et d'ailleurs mais t'as un problème d'éducation pour toi mentir est une passion bébé j'ai dit j'ai une question peux-tu me donner ton attention ma combien de fois t'as baissé ta jupe dis-moi combien de fois tu m'as dit que t'es sainte alors que le voisin t'a collé collé j'ai vu tes photos chez lui tu gâtes le coin ne me parle plus de sentiments je sais que t'es chouin chouin chouin
auditeur de Radio France Internationale, bonsoir. Je suis Judas Sion, Narcisse Lavène, journaliste culturel, animateur radio. Mon coup de gueule de ce jour va à l'endroit de la musique béninoise qui jusque-là n'a pas encore une identité culturelle. Comment comprendre qu'une musique qui est assez riche côté variété avec les rythmes traditionnels comme le gogorun, le kaka, le zinli, le mansegorun, le tipenti pour ne citer que ceux-là soit encore à la trêve. Comment comprendre que les artistes béninois, malgré la diversité et la pluralité des rythmes que nous avons chez nous, soient encore là à copier le Togo, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et autres pays de la sous-région côté musique. Ça ne va pas du tout et il faudrait qu'on puisse se le dire en face. Il faudrait que les nôtres puissent se mettre ensemble, travailler réellement dans la cohésion pour pouvoir sortir enfin un rythme propre au Bénin. Parce que c'est quand même 58 ans d'indépendance, 59 très bientôt, et le Bénin a besoin d'être indépendant côté musique aussi. J'espère que les centaines de milliers d'artistes que nous avons nous écoutent ce soir et sauront raison garder, sauront travailler pour que nous ayons enfin cette musique qui est propre à nous.
Judas, merci, le message est passé et si vous aussi vous en avez marre de quelque chose dans votre pays, eh bien partagez-nous vos convictions en nous envoyant vos coups de gueule, un coup de gueule en vidéo que vous pouvez nous adresser sur notre WhatsApp ou sur notre page Facebook. Alors on dit quoi ?
Appelle-nous sur WhatsApp au 33 647 740 742.
Et c'est l'heure de la minute d'Anna. Bonjour Anna.
Bonjour Viara.
Alors aujourd'hui, vous nous emmenez au Bénin.
Tout à fait, plus précisément à Cotonou. Alors, est-ce que vous aimez les stand-up, Viara?
J'adore ça, Anna.
Eh bien, nous sommes deux à les adorer. Ce genre de comédie dans laquelle un ou une comique s'adresse directement au public en racontant des anecdotes ou des observations du quotidien. Aujourd'hui, je vous présente Kenneth Yanis Oussou, humoriste béninois qui, dans le cadre du mois de la francophonie, mois de mars durant lequel la langue française est célébrée dans le monde entier, a présenté un spectacle solo le samedi 2 mars dernier à l'Institut français de Cotonou.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce fameux Kenneth?
Eh bien, Kenneth Yanis Oussou est donc un humoriste béninois, connu dans l'univers artistique comme le tout premier à promouvoir le stand-up au Bénin à grande échelle. Cette reconnaissance lui a valu d'être plébiscité sur des scènes internationales, notamment en 2017 sur celle du Parlement du Rire.
Une émission qui connaît un énorme succès sur le continent déjà.
En effet, une émission humoristique dans laquelle différents humoristes francophones du continent africain viennent faire un sketch au gré des émissions. Premier artiste béninois à réaliser cette prouesse, Kenneth Yanis Oussou présente son tout nouveau spectacle solo intitulé « Défoncé ». Le nom du spectacle est inspiré d'une série de vidéos réalisées pour dénoncer de manière décalée les effets du tabac sur les jeunes. Dans un style décontracté, l'artiste s'adresse directement au public en abordant des thématiques liées à sa vie privée et des sujets d'actualité. Je vous invite donc à visiter rapidement sa page Facebook intitulée « Kenneth Yanis » sur laquelle vous pouvez consulter toutes les informations nécessaires quant aux prochaines dates de ce spectacle.
Merci Anna. Diana.
De rien, Diara.
Et je suis également en compagnie de Joanne. Bonjour, Joanne.
Bonjour, Diara.
Aujourd'hui, vous allez nous parler de procrastination.
Oui, et avant de démarrer cette chronique, je tiens à dire que nous sommes tous des procrastineurs à des échelles différentes. On a tous eu la flemme à un moment d'aller faire la vaisselle et elle s'est entassée dans l'évier. On a tous déjà décidé, en début d'année, de faire du sport tous les deux jours. Mais à chaque fois que le moment se présente, on trouve autre chose à faire. Notre cerveau est prédisposé à procrastiner, c'est-à-dire à remettre au lendemain ce qu'on peut faire tout de suite. Le problème, c'est que la procrastination, c'est difficile, nous fait perdre du temps et nous empêche d'atteindre nos objectifs. Alors aujourd'hui, on va voir comment la combattre.
Alors, étape numéro 1.
On élimine les distractions. Dans le monde ultra connecté dans lequel nous sommes, difficile de passer une heure sans recevoir un message WhatsApp, une notif Facebook ou Instagram. Ma meilleure amie va m'envoyer un WhatsApp. Je vais ouvrir le message pour le lire parce que je me dis que ça ne prend que 2 minutes. Entre-temps, mon frère m'envoie le lien d'une vidéo du comédien Yaya Vitch que j'adore. Je regarde la vidéo. Mais que serait une vidéo drôle sans les commentaires qui vont avec? Je commence à lire les commentaires. Et voilà, 20 minutes de perdu. Multipliez-les par le nombre de notifications que je vais recevoir par jour. Il est donc conseillé de se déconnecter des réseaux sociaux et de s'éloigner de son téléphone quand on veut se concentrer sur une tâche.
Et ensuite, que fait-on, Joanne?
Ensuite, on planifie les choses différemment. Par exemple, je peux me dire que je dois rédiger 4 chroniques radio en un mois. En réfléchissant de cette manière, je ne me sentirai jamais pressée de rédiger ces chroniques avant la 4e semaine. Or, si je me dis que je dois rédiger une chronique toutes les semaines, la donne change parce que mon échéance change. Il faut donc découper son temps et ses tâches en petits morceaux.
Un dernier conseil, Joanne?
Oui, c'est la règle des 2 minutes. C'est un principe qui repose sur le fait qu'on met généralement de côté des choses qui sont faciles à réaliser. Envoyer un mail, vider la poubelle, faire la vaisselle après avoir mangé. Cette règle préconise que si la tâche à effectuer nous prend moins de 2 minutes à réaliser, il faut la faire immédiatement.
Merci, Joanne.
Merci, Diara.
Voilà, c'est déjà la fin, ça passe trop vite, c'est fou. La semaine prochaine, on se donne rendez-vous, même heure, même fréquence sur RFI. Alors on dit quoi ? Parlera du 7e art. Les jeunes s'intéressent au métier du cinéma et de l'audiovisuel. L'envie étant de faire des fictions et documentaires conçus et fabriqués par les Africains eux-mêmes, qui seraient des modèles positifs au sein des populations du continent, mais aussi pour redorer l'image de l'Afrique aujourd'hui envoyée au reste du monde. Et vous, que pensez-vous du 7e art africain ? Êtes-vous intéressé par une formation dans le domaine? Dites-nous ce que vous en pensez et d'ici samedi prochain, envoyez-nous vos commentaires et témoignages sur WhatsApp. Partagez et likez notre page Facebook. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Vous pouvez réécouter l'émission sur le site de RFI, sur notre SoundCloud ou même sur Google Podcast. Merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe de l'émission, Beverly, Mariam, Claire, Dibril et Guillaume. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Salut, Ragongol, à bientôt.